time for the wrestling podcast.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Esmeo qui vous présente le Wrestling Podcast comme chaque semaine en compagnie de Jérémy. Salut Jérémy.
Salut à tous.
Cette semaine nous sommes en plein Road to WrestleMania, c'est plutôt la fin de Road to WrestleMania. Alors pour fêter l'événement, on a convié plusieurs personnes pour qu'elles puissent nous parler un peu de ce qu'elles ont ressenti lors de ce Road to WrestleMania. Donc qu'elles soient modérateurs d'un forum officiel, administrateurs d'un site internet ou directrices d'une boutique sur le catch. On a convié plusieurs personnes de tous bords. Donc premier invité, Florian alias Knack, administrateur du site catchbreaker.fr. Salut à toi Flo.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Deuxième invité, Undertaker 1912, alias Eddie, qui est modérateur du forum Communauté SmackDown vs Raw et qui par ailleurs a aussi une page Facebook Notre seule addiction c'est le catch. Salut à toi Eddie.
Salut à toi Mathieu et bonjour à tous.
Et notre dernier invité, Steven, qui a été spectateur lors de Road to WrestleMania, on va dire durant le Royal Rumble, donc il pourra nous faire partager un peu ses impressions lors de ce pay-per-view. Salut à toi Steven.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Alors on va pouvoir commencer. Donc Road to WrestleMania a commencé le soir du Royal Rumble 2010, donc le 30 janvier 2011, lors de Boston, en Massachusetts. Donc l'événement était, on va dire, assez attendu. On attendait surtout des personnes lors du Royal Rumble match. Mais avant de parler du Rumble match, on va parler un petit peu des matchs de championnat. Donc premier match de championnat, c'était Edge contre Dolph Ziggler pour le titre de champion du monde poids lourd. Résultat, tout le monde le sait, c'est Edge qui a, on va dire, conservé son titre face à Dolph Ziggler suite à une intervention de Kelly Kelly sur Eddie Guerrero pour qu'elle ne puisse pas interrompre l'arbitre lors du décompte. Alors, messieurs, dames, votre avis sur ce match?
Un match qui a été sur le ring tout de même assez correct d'après moi. Vraiment une belle opposition. Donc ça a quand même, faut pas oublier que Dolph Ziggler était tout de même au début du mois de janvier le champion intercontinental, qui est un titre quand même assez représentatif de la mid-card de SmackDown. Donc le fait de le voir dans un match pour le titre mondial au PPV du mois de janvier, c'est quand même assez énorme, et je trouve qu'il a tout de même assuré une certaine prestance. Il a été digne du statut de futur main eventer que tout le monde lui attribue. Donc vraiment rien à redire sur cet aspect là Maintenant, le seul point que je viendrai à critiquer, c'est plutôt la fin en fait en termes de booking. Avec, si je me rappelle bien, Edge qui utilise le spear malgré l'interaction, sous les yeux de Vicky qui était quand même consciente à ce moment-là, et pourtant il n'y a pas vraiment eu de suite.
Justement, faut quand même préciser, il a utilisé le spear, mais Vicky était inconsciente, donc elle n'a pas pu voir le spear de Edge.
Ouais, mais après il y a tout ce qui concerne en fait, enfin il y a un replay qui est diffusé, donc ça ils s'en servent un peu comme ils veulent en fait. Des fois ils prennent ça comme argument pour relancer le match, des fois non. C'est vrai que ça m'a un peu perturbé sur le fond.
Steven, toi qui étais présent lors du pay-per-view, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce match?
Le match en lui-même était vraiment un joli match, rien à dire, une belle opposition entre le champion du monde et, comme l'a dit Flo, contre le champion intercontinental. C'est vrai que sur l'affiche, c'est limite le match rêvé à SmackDown par rapport au champion. Mais après, le point négatif de cette rencontre, c'est justement les interventions. D'un côté, Edge qui nous ressort son execution depuis plusieurs années qu'il n'avait pas utilisé. Il va pour gagner Vicky qui intervient sur l'arbitre. Après, plusieurs oppositions, Vicky qui vient contester. Après, c'était vrai que l'arrivée de Kelly Kelly en faveur de Edge a été un bon tournant du match, je pense, car ça a permis quand même à Edge derrière de pouvoir sortir son spear. Mais je tiens quand même à signaler là-dessus que Edge n'a pas gagné le match grâce à son spear, car pour faire le compte, il a d'abord utilisé le kill switch, la prise de Christian, afin de faire le tomber. Donc en quelque sorte, il a vraiment utilisé le spear, mais il n'a pas l'utilisé en sorte de gagner le match.
Justement, d'ailleurs, la prise qu'il utilisait, donc le kill switch, la prise de finition de Christian, il l'a sorti, mais ça a vraiment surpris tout le monde, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il la sorte, finalement.
Ouais, c'est ça que je trouve super de la part de Edge, c'est un petit signe en faveur de son ami Christian, qui était à ce moment-là blessé, à cause de Del Rio, donc moi je trouve que c'était un joli signe de sa part.
Eddie, une petite réaction sur ce match?
Oh bah, très bon match d'ouverture, hein, comme à leur habitude, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que bon, l'utilisation du spear interdit, ça faisait quand même un... Je sais pas comment dire, mais ça laissait les spectateurs en haleine, quoi. Bon, théoriquement, bon, il n'avait pas le droit, bon, il l'a fait quand même. C'était assez marrant, moi j'ai trouvé ça assez marrant. Maintenant, c'est vrai que que bah, toutes les interventions, c'est un petit peu sous long après à la suite. En multiplicité des pay-per-view, ça devient un petit peu fatigant, mais en moyenne, j'ai trouvé que c'était un bon match.
Jérémy, petite réaction justement vis-à-vis de ce match.
Et comme j'ai dit dans le précédent podcast, hein, et comme tout le monde l'a répété là, hein, les interventions ça commence à être lourd, mais ça reste pour un match d'ouverture, bah, c'était un super match. Il n'y a rien d'autre à dire de plus quoi.
D'accord.
Rien de plus que les autres, que les autres viennent de dire.
Moi aussi, je vais pas pouvoir ajouter grand chose en commentaire. On va enchaîner sur le match suivant. Donc c'était un match pour les titres WWE. Donc qui opposait The Miz, le champion actuel à l'époque, face à Randy Orton. Donc victoire encore et toujours du Miz face à Randy Orton. Flo, qu'est-ce que tu as pensé du match entre Miz et Orton?
Donc c'était une opposition tout de même assez lente. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de critiques qui avaient été faites à ce sujet. Et c'est vrai qu'on ne peut que constater quand même que The Miz n'est pas encore capable de tenir un match s'il n'a pas un adversaire vraiment dynamique. Et Orton, c'est pas du tout ça en ce moment, surtout avec son booking actuel. Donc on a eu quelque chose de lent, mais avec quand même des temps forts. Et un final qui donne pas vraiment de crédibilité au personnage du Miz, avec une intervention, si je me rappelle bien, de CM Punk, qui a fait un GTS à Orton. Donc c'est d'ailleurs un événement qui a lancé à long terme en fait la rivalité qu'on a actuellement. Mais tout de même une victoire, une deuxième victoire de suite en PPV pour The Miz contre Orton, qui a essayé un petit peu son statut de champion du monde. Donc, une bonne chose.
Victoire un petit peu contestée quand même, étant donné qu'il ne c'est pas quand même lui qui lui a mis sa prise de finition. Donc c'est CM Punk qui lui a fait une frappe par derrière, si je peux dire. Mais victoire un peu contestée quand même.
Absolument, une victoire contestée, tout comme l'avait été déjà celle de TLC, celle contre Lawler Arrow en novembre, et celle encore ensuite contre Jerry Lawler lors de l'Elimination Chamber. Donc tout à fait dans le style donné au règne du Miz en fait, c'est-à-dire un champion pas forcément méritant.
Certes, mais disons que c'est quand même une sorte d'opportuniste, comme l'était Edge à l'époque.
Absolument.
Je dirais pas jusqu'à dire que c'est le nouveau Edge, mais disons qu'il essaye de jouer sur les opportunités.
En même temps, qui ne l'aurait pas
fait. Raison. Il a bien raison.
Oui, mais certes, il a raison, mais ça fait vraiment cliché, quoi, je veux dire. C'est quelque chose de...
Il y a beaucoup de clichés, hein, maintenant. De
certes,
toute
oui,
façon,
disons que c'est une impression de déjà vu, on va dire.
Bah oui, mais comme tout.
C'est-à-dire que ça rejoint quelque chose qui est propre, en fait, au traitement des heels en général. Qui ne peuvent plus vraiment s'imposer de manière crédible. Il faut toujours que quelque chose se passe, un événement extérieur, un intervenant, un arbitre corrompu, n'importe quoi, mais quelque chose qui fait que le heel gagne sans le mériter. C'est assez général en fait.
Ton avis, Steven, justement, lors de ce match, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, quand on voit l'opposition que ça donne, franchement, quand moi j'arrive en rentrant dans la salle, on était tous avec les gens avec qui j'étais, on était tous contents de voir un match. The Miz Orton, c'est quand même un match qui en jette au niveau de l'affiche. Il n'y a rien à dire, c'est deux catcheurs, un qui a l'expérience, l'autre qui est jeune mais qui a un bon niveau. Donc on devait s'attendre vraiment à un beau match. Et en fait, bah, ça, là on retombe dans la problématique de la WWE en ce moment, c'est les interventions. Quoi. Parce que Orton maîtrise le match. Le match était, comme l'a dit Flo, c'était un match assez lent, mais Orton a dominé de la tête et des épaules ce match. Il y a l'intervention une première fois d'Alex Riley, puis après il y a l'équipe de CM Punk et d'Alexis qui arrive. Et finalement, c'est une victoire complètement imméritée, parce que le Miz, il n'a rien compris à ce qui s'est passé, il était complètement dans les vapes après un RKO. Et voilà, finalement, c'est CM Punk qui vient prendre le Miz, pour le mettre sur Orton. Donc pour moi, vraiment un goût amer sur ce match.
Ellie, une petite réaction sur ce match?
J'ai pas grand chose à dire parce que là beaucoup de choses ont été dites et sont vraies maintenant. C'est vrai que à chaque fois tu sais comment le match il va se dérouler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais maintenant, je lis comment les matchs ils vont finir. Et ça c'est vraiment saoulant. Parce que tu sais qu'il va y avoir soit une intervention, soit un truc qui va venir couper l'action. Et ça c'est voilà. Je suis très 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 déçu, j'attendais beaucoup plus, même si le Miz, n'en déplaise à ses détracteurs, monte énormément et fait progresser sa gimmick de façon exponentielle. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et moi, j'en garde un souvenir amer aussi. Ça m'a pas laissé un grand souvenir.
mais c'est vrai qu'en ce moment au niveau WWE, certains matchs, du moins au moins pour les comportements heel, c'est vrai que c'est déjà du prévisible, on sait ce qu'il va y avoir à l'avance limite.
Donc, mais c'est que des interventions. Tu regardes, que ce soit Raw, que ce soit SmackDown, que ce soit ce que tu veux, c'est que des interventions. Il y a toujours un truc qui va venir pour interférer et voler la victoire. Donc bon, ça va bien une fois, deux fois, trois fois, mais quand c'est la 20e, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Enfin, pour moi.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'intérêt il n'y a plus d'intérêt justement pour ces actions-là. Je suis d'accord, une fois de temps en temps, c'est sympa, mais bon. Jérémy, justement, une petite réaction vis-à-vis de ce match?
Pareil, le Miz et Orton, c'est une affiche qui me plaît à la base, mais j'ai pas trouvé le match. J'ai pas trouvé que le match avait vraiment de l'impact. J'ai pas accroché dessus. J'ai vu mieux. Et puis c'est toujours la même chose. Donc je me lasse.
Je vais vous demander à vous tous. Si vous devez comparer si vous avez le choix entre le match donc de champion du monde polo opposant Edge et Ziggler face au match pour le titre WWE opposant Miz et Orton, entre ces deux matchs, lequel avez-vous préféré?
Moi, Edge et Ziggler.
Ben, moi, sans hésiter, je dirais pareil.
Moi, sans conteste, le match d'ouverture, étant donné que les matchs d'ouverture sont excellents, je reste sur celui-là aussi.
Donc pareil, le match entre Edge et Dolph Ziggler.
Très bien.
À l'unanimité. Et toi,
match? Pareil, Edge, Dolph Ziggler. Le match suivant était donc Natalia contre les Cool. Enfin, c'était le match qui était proposé à la base. Mais suite à une décision de l'arbitre, le match est transformé en Fatal 4-Way de Diva. Et en fait, la quatrième, en fait, était F. Torres, qui est donc arrivé, qui était un peu...
Désolé de te contredire, Mathieu, mais c'était pas l'arbitre, c'est le général manager anonyme de Raw qui a lancé F dans ce match.
Merci, oui, excuse-moi, je voulais dire général manager. Voilà, c'est un peu surprenant d'ailleurs. Elle arrive, elle débarque, on ne sait d'où, et elle remporte le titre, elle se barre. Ambiance générale du match, un peu décevant, moi je trouve. Bon, après, c'est peut-être mon avis personnel, mais bon, que.
C'est pire que décevant, Mathieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, déjà, un match handicap qui se transforme en Fatal 4-Way, je me dis, cool, parce qu'il y a une petite innovation. Maintenant, filer le titre à la gamine, je suis ressorti du match, j'ai dit, mais... franchement, mon sentiment général là-dessus, je me suis dit, il y a un petit souci quelque part.
Flo, ton avis justement sur ce match?
Donc, je suis tout à fait d'accord donc avec Eddie. C'est-à-dire que c'est assez révélateur du traitement habituel au niveau de la division féminine. Mais déjà, autant le changement de carte au dernier moment, autant on peut être habitué à ça. Et ça concerne aussi la division, autant la division féminine que les hommes. Mais par contre, changer de champion comme ça, c'est complètement irrespectueux pour Natalia, qui était quand même beaucoup plus rodée, je pense, à ce niveau-là. Beaucoup plus talentueuse, qui attendait son heure depuis longtemps et qui au final n'aura pas eu un règne vraiment flamboyant, alors qu'elle était une championne idéale pour un PPV justement comme WrestleMania. Je trouve ça dommage.
Steven, ton opinion sur ça?
Ouais, franchement, je pense que tout était dit sur ce match, parce que là, il n'y avait rien. L'arrivée de Eve, c'était le sort, l'arrivée d'un certain match. D'ailleurs, la fin du match était quand même assez marrante, quoi, entre Michel Makou qui fait tomber sur Natalia et Eve qui fait tomber en même temps sur Layla et que l'arbitre ne voit que le tomber de Eve. Moi, je trouvais ça plutôt drôle de s'en voir ensemble.
Jérémy, une petite réaction?
Ça me mérite, ce match ne mérite pas de. si j'étais faire pipi pendant le match.
On est content de le savoir.
Désolé Mathieu, je voudrais rebondir sur un sujet de discussion qui colle un petit peu à ça. Qu'est-ce que vous pensez tous de la durée maintenant des championnats et de. Parce que maintenant il faut reconnaître que champion, on le reste. Trois semaines, quoi. Comparé à des 5 ans, il y a 20 ans, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, les ceintures ne sont plus ce qu'elles étaient avant.
Ah non, on est habitué à avoir des changements de titre.
Ça rend bien presque banal, quoi. Être champion de la WWE ou champion intercontinental, maintenant, c'est banal. Alors que la ceinture DIC, quand même, c'est une des plus prestigieuses ceintures qui soit.
De toute façon, à ce moment-là, tu parles aussi des changements de titres, mais il faut quand même compter que le niveau même des champions a quand même largement baissé. Parce que tu compares des anciens champions par équipe comme Santino Marella et Kozlov face aux concurrents donc à la TNA qui est donc d'anciens champions par équipe, les Motor City Machine Gun, donc Alex Shelley et Chris Sabin, il n'y a pas photo, le niveau n'est pas du tout le même.
Ouais, mais là, attends, tu compares les Motor City Machine Guns à Santina et Kozlov.
Oui, certes, je suis d'accord, mais bon, c'est pour faire réagir, comme quoi le niveau même des champions ne sont plus ce qu'ils sont. Avant, on avait.
Santino et Kozlov, franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils font là. Je suis désolé, moi, quand ils ont gagné les ceintures en équipe, je me suis dit, mais pourquoi ils leur donnent à eux? Bon, Santino, il est marrant, il n'y a pas de souci, il fait le show. Son cobra, c'est limite une insulte aux prises de finition. Hein, je suis désolé, je ne comprends pas comment on peut finir un match sur cette prise-là. Voilà, je ne comprends pas. Bon, tu verras ensuite que là, ils ont été ajoutés en plus quand on parlera de WrestleMania dans le match de 4 contre 4. Ils ont été rajoutés dans ce match-là. Ils n'ont rien à y faire. Donc, voilà, c'est... Moi, pour moi, c'est pas leur division, quoi.
Donc, si je peux réagir à ça, c'est surtout qu'on entre aussi dans une conception beaucoup plus business avec la WWE qui n'a vraiment plus rien à foutre de sa division par équipe, dans le sens où elle ne pense pas qu'elle peut vraiment capitaliser là-dessus, pardon, pour engranger des sous. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on se retrouve forcément avec des champions pas crédibles du tout. Donc, je suis tout à fait d'accord, Santino et Kozlov, c'est sûr que c'est pas des têtes d'affiche. Maintenant, ils apportent une plus-value assez intéressante au niveau de l'entertainment, mais ça ne suffit pas pour bâtir quelque chose vraiment d'intéressant. Donc, je ne peux qu'être d'accord par rapport aux remarques d'Eddie, c'est sûr.
Il y a un truc qui peut. Pardon, vas-y, Mathieu.
Il faut quand même préciser que. Pour moi, ils ne sont. Enfin, je pense que tout le monde se trouve qu'ils ne sont pas crédibles en tant que champions. C'est de toute façon, il faut quand même préciser, Flo, qu'au niveau entertainment, la WWE a quand même déclaré récemment, lors d'une interview, qu'elle ne voulait plus être considérée comme une fédération de catch, mais comme une compagnie de divertissement. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle leur niveau a quand même bien chuté.
Donc attention, c'est pas tout à fait la WWE qui a déclaré ça, c'est plutôt une de leurs consultantes, je crois, qui a dit ça en fait de manière isolée. Donc il faut pas attribuer en fait ce propos à l'état d'esprit vraiment de la fédération, même si c'est vrai que de toute façon quand on regarde bien les shows, on rentre tout de même plus maintenant dans quelque chose de plus général, c'est plus seulement de la lutte.
Ne serait-ce que le dernier round quand tu vois Shane qui
fait la trompette. Je pense que ça fait la peur, parce que une compagnie de
Match suivant, donc c'est l'Euro.
Juste pour revenir sur les types Kozlov, Santino Marella,
oui.
Moi il y a quelque chose quand même qui me fait vraiment très rire, c'est cette équipe quoi, parce que Santino Marella c'est pas un catcheur, c'est une blague dans le catch, parce qu'on voit pas vraiment ce qu'il a à faire là. Et l'union qui fait rire quand même dans ces matchs, c'est que c'est quand même Santino Marella qui gagne à chaque fois le match par équipe. Alors quand avec son coéquipier, c'est quand même Kozlov. Kozlov qui est quand même, à son arrivée, le mec qui a détruit Batista, il a détruit l'Undertaker, il détruisait tout le monde à l'époque. Et maintenant, il se fait battre par n'importe qui.
Si tu veux, moi, ça me fait mal parce que je me dis, le mec, il a vachement régressé quand tu penses quand il a commencé. Si mes souvenirs sont bons, il a commencé, il est arrivé, il a explosé Taker, il est resté sur le tapis du ring sans bouger, il s'est pris un coup et il s'est même pas relevé. Quand tu vois que maintenant il joue la trompette avec le Santino, ben, je veux dire, il y a des trucs qui marchent pas, quoi. Il y a des trucs qui marchent pas.
Et Kozlov, il est quand même resté invaincu plus de 6 mois, hein. entre Jeff Hardy, l'Undertaker, le Big Show, Triple H, il avait un beau palmarès de victoire. Voilà, maintenant, c'est ça, il se retrouve à faire le clown avec Maréla.
Maintenant, moi, quand tu me parles de la division par équipe, quand tu me parles de London et Kendrick, ça, c'était une équipe.
Ça, c'était de la gueule. Ça, vous avez
dit. Quand ces mecs-là, ils étaient dans un ring, mais on avait des matchs de fou, quoi. C'est des trucs. On parie à mal.
Pardon. Vas-y.
Non, vas-y, c'est bon, j'ai fini.
Non, je voulais dire aussi, au niveau des équipes, comme tu disais, Brian et Kendrick, avec London, c'était vraiment des équipes voltigeuses, ça donnait du spectacle. Et en revenant sur cette équipe-là, j'ai envie de rappeler la bonne vieille époque, genre les Hardy Boys, avec les Dudley, les Edge et Christian, les matchs par équipe. Là, au moins, ils étaient, je sais pas, on allait un peu perdu, on regardait un peu perdu. Ce match-là, on l'attendait. Maintenant, un match par équipe, on le voit, c'est limite, bon, bah, t'en profites pour aller faire une pause, quoi.
Ouais, c'est... Non, puis les enjeux sont plus les mêmes, les durées des ceintures ne sont plus les mêmes non plus. Donc les mecs travaillent moins, moi j'ai l'impression qu'ils travaillent moins pour ça. Parce que bon, bah de toute façon, le mois prochain, ils seront champions.
Match suivant, donc c'était le fameux Royal Rumble match. Avec une petite nouveauté, au lieu d'avoir 30 participants, on avait 40 participants. Donc, on va pas non plus vous faire toute la liste des entrées, des éliminations du Royal Rumble, mais à noter quand même, avant le début du match, une légère bagarre entre The Core et Nexus. Le match finalement débute entre CM Punk et Daniel Bryan. Pendant toute la première partie du match, c'était Nexus qui renvoyait valdinguer tout le monde. Jusqu'à l'arrivée de John Cena, bien sûr, qui renvoie valdinguer toute la Nexus. Après, c'est The Core qui s'en est mêlé, mais il c'est pas resté très longtemps. Victoire d'Alberto Del Rio, on va dire. Enfin, victoire jusqu'à ce que Santino Marella revienne parce qu'il était passé par dessous la première corde, donc il s'était caché sous le ring. Il revient au moment où. On va dire Alberto Del Rio balance ce qu'il croit être le dernier concurrent par-dessus la troisième corde et qu'il tombe. Santino essaye de faire passer Alberto Del Rio par-dessus la troisième corde, mais finalement, retournement de situation, c'est Alberto qui fait passer Santino par-dessus la troisième corde. À noter deux apparitions surprises, celle de Booker T et de Kevin Nash, Diesel. Votre avis, messieurs dames, sur ce Royal Rumble match, qu'avez-vous pensé justement de ce Rumble? Est-ce que c'était un bon match du Rumble ou est-ce que vous avez un avis mitigé?
Moi, je suis d'avis mitigé. J'ai pas aimé le début de match avec la Nexus. J'ai trouvé ça lourd et plat. Pour les retours, j'étais pressé et impatient de revoir. De voir le retour de Big Daddy Cool Diesel et Booker T, pas tant que ça. Et ben finalement, j'ai préféré revoir Booker T que Big Daddy Cool Diesel. Donc question de ça, pareil, déçu. Le vainqueur, forcément déçu. Même si je dis pas qu'il mérite pas, attention. Mais bon, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre gagner. Dans l'ensemble, sur tout ce qui est technique et bof.
Steven, toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce match? Parce que vu que tu y étais, tu as dû ressentir vraiment les impressions du match en réel. Donc qu'est-ce que tu as ressenti justement lors de ce match?
Bah, c'est vrai que quand tu regardes en tant qu'avis extérieur par la télé ou par internet, quand tu vois le match, c'est vrai qu'on peut être complètement mitigé. Moi, c'est mon avis aussi, mais en tant que spectateur à l'intérieur de la salle, c'était tout simplement de la folie, quoi. Voir un match de ce style-là, c'est pour tous les fans de catch, c'est limite un rêve. Donc, quand tu peux le voir, c'est absolument merveilleux. Après, il y a beaucoup de choses, voilà, comme disait Eddie, je suis d'accord avec lui, la victoire d'Alberto Del Rio, bon, bah, tout le monde s'en doutait, vu qu'il n'arrêtait pas de le réclamer, comme par hasard, avec tous les matchs juste avant. C'était limite un peu poussé en disant tiens, bah, c'est lui qui va gagner. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de litiges dans ce match, mais
beaucoup de trucs, moi j'ai beaucoup aimé, c'est je sais pas si vous avez vraiment remarqué la sortie de John Morrison qui est tombé quand même sur les barrières avant de remonter sur le ring. Ça c'est vraiment exceptionnel de voir un coup comme ça dans un Rumble. Après d'autres choses que moi je trouvais assez drôle dans le sens, c'est la Nexus qui élimine tout le monde, qui élimine 5 ou 6 catchers en peu de temps. Et John Cena qui arrive et en 30 secondes il a fait le nettoyage, il a enlevé toute la Nexus du ring. Moi j'ai trouvé ça vraiment marrant quoi sur le coup. Le mec il arrive, hop, c'est le pire ennemi de la Nexus à ce moment-là, il arrive, il les gère tous en 30 secondes. Tu te dis ouais bon bah c'est un peu abusé.
Enfin, toute la Nexus c'est infini, finalement il en a viré que 3 sur 5. Puis je crois que Kali en avait viré je sais plus qui.
Oui, Yusuke Hari et Cell Punk étaient restés.
Voilà,
il en a quand même éliminé 3 en 30 secondes quoi, donc
Oui mais c'est John Cena, c'est normal.
Ouais, c'est John Cena. Mais
il y a quelque chose quand même qui m'a choqué et que je ne trouve pas ça normal, c'est l'apparition du Hornswoggle dedans. Le mec il fait un attitude adjustment à Tyson Kidd, je trouve pas ça crédible. Il a rien à faire dans un Royal Rumble. C'est mon avis personnel, mais bon je vois pas ce qu'il vient faire là quoi, c'est pas sa place quoi.
Qu'il y participe. Excuse-moi, tu.
Non. On peut pas leur en vouloir non plus de l'avoir fait participer. Pendant, ils ont quand même fait participer 2 femmes au total. Donc,
Oui, mais après, c'est pas pareil.
C'est-à-dire que Beth Phoenix et Shayna, ça avait plus de gueule que Hornswoggle quand même.
Et c'est sûr, mec. Quoi.
Et puis, faut quand même préciser que c'est quand même pas de simples femmes. Elles arrivent même à concurrencer certains mecs. Surtout pour Shayna à l'époque. Donc. Bon, pour Beth Phoenix, je suis un peu perplexe quand même. Je suis pas convaincu parce que vu de la manière dont elle a fait éliminer le Great Khali l'année dernière, je suis pas non plus.
Ça aurait pas marché.
Voilà, oui. Je suis pas très fan non plus de ce qu'elle a fait. Eddie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement du Rumble match?
Ah, écoute, je vais te faire un résumé. Le Rumble, c'est quand même le match mythique que tout le monde rêve de voir. Je pense que tout le monde. D'accord avec moi sur ce point-là. 40 participants cette année, c'était quand même la grosse surprise, même si on avait appris qu'il couperait les entrées, parce que bah, forcément, quand il y a plus de mecs, il faut un petit peu moins de temps, donc ça, c'est la petite déception. Maintenant, c'est vrai que la Nexus et Cena, je t'avoue que ça m'a saoulé, mais un truc énormissime. Déjà que la Nexus, je crois de mémoire, ils vont virer une bonne dizaine de catcheurs à eux tous. Donc, déjà sur les 40, ça fait déjà une bonne partie. John Cena ensuite qui se pointe et qui vire toute la Nexus, c'est Superman. Hein. C'est le surnom à John Cena, c'est Superman. Hein. Kali, lui, il l'a pas fait, mais John Cena, il le fait. Voilà, c'est comme ça. Bon, que Hornswoggle soit là, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir que ça amusait la galerie, parce que c'est un petit peu fait pour amuser aussi. Maintenant qu'il porte la prise de finition à John Cena sur Tyson Kidd, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde.
Ouais, là, c'est clair que là, on a bien là-dessus.
Voilà, bon, ensuite. Le vainqueur, je ne m'attendais pas à ça, même si le retour de Santino, bon, c'est réchauffé hein, dans les Rumble. C'est pas la première fois qu'on voit un mec qui va à l'extérieur du ring, qui revient quand il n'y a plus qu'un seul mec dedans et qu'il l'éjecte. Hein. Mais j'aurais préféré quand même que ce soit Santino, bon, même si Del Rio a quand même bon, un niveau de catch supérieur à lui. Hein. Faut quand même rappeler qu'il vient.
Oui, c'est accent. Au niveau de son cursus, oui, il a quand même fait un bon séjour à la CMLL au Mexique, donc oui, c'est quand même bon.
Mais maintenant, moi, la grosse déception pour moi du Rumble, parce que nous, on est quand même des gens qui sommes à pister les news au jour le jour et tout. Et on avait parlé d'une présence féminine au Rumble, je sais pas si vous...
Ouais, de Amazing Kong, enfin Awesome Kong.
On avait, soi-disant, c'était les débuts à Awesome Kong. Bon, moi j'aurais plus vu Beth Phoenix, femme est là. Et en fait, on n'a pas eu aucune femme. Donc là, j'ai été un peu déçu parce qu'on attendait ça un petit peu. Mais sinon, bon, en règle générale, c'était un rumble. Tout peut arriver dans un rumble, je veux dire.
Alors, petite pression justement vis-à-vis de Amazing Kong. Apparemment, elle était en backstage lors du soir du rumble.
Oui, elle était en backstage, mais comme on sait que après le WrestleMania.
Ainsi que Mystico d'ailleurs. Donc messieurs, votre avis général lors du pay-per-view?
C'est mitigé, moi je suis mitigé. Autant il y a des trucs bien, autant il y a des trucs pas bien. Ça reste un rumble, donc c'est un des pay-per-view majeurs de l'année. Donc je pense que même s'il y a eu des interventions, même s'il y a eu des trucs qu'on n'a pas aimé, de le voir en live, on apprécie quand même plus que devant sa télé.
Ouais, c'est normal.
Steven, toi, ton sentiment général lors du pay-per-view, toi qui l'as vécu, qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale?
Bon, de manière générale, bon, bah, c'est vrai que j'ai fait pas mal de critiques sur les matchs parce que voilà, il y a l'ambiance, c'est un show que t'as. Moi, j'étais en direct dans la salle, donc c'est un endroit où tu veux la magie, tu veux de la magie, tu veux des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits points négatifs qui font que c'était pas aussi magique qu'on pense. Mais le vivre en direct, c'est vraiment un moment spécial, c'est particulier. Moi, j'en tire, même si voilà, il y a des points négatifs, moi, j'en tire pour moi que c'était un grand Royal Rumble. Pas aussi bon que certaines années, mais c'était un bon Royal Rumble pour moi.
Florian, qu'est-ce que tu penses du Rumble de manière générale?
Donc pour ma part, PPV est tout de même meilleur que l'édition de 2010, avec des matchs, bon, pas forcément tous transcendants, mais quand même, moi je trouve que globalement il y avait une bonne moyenne, surtout avec l'opener et donc bon, forcément le main event, le Royal Rumble match, un vainqueur surprenant, des interventions, bon après d'un point de vue plus subjectif, la victoire du Miz, vu que je suis tout de même un grand fan de ce personnage, ça m'a vraiment fait plaisir. La manière est assez originale. D'ailleurs, pour rebondir sur le final, donc on en avait beaucoup parlé tout à l'heure, il y avait quand même un côté assez sympathique avec ça. C'est-à-dire, on voit que le Miz est complètement largué à la fin du match. Donc ça, vous l'avez tous dit. Il gagne, il se rend pas vraiment compte de ce qui s'est passé. Il l'emporte un peu à l'arrache comme ça, sans avoir rien fait. Mais au final, on a aussi l'impression que c'est un mec qui se retrouve propulsé dans le main event, sans vraiment avoir les capacités pour le faire, il commence à le réaliser petit à petit. Et ça met en place quand même une sorte de continuité par rapport à ce qui avait été fait avec le Miz, c'est-à-dire que c'est un mec qui est arrivé dans le main event sans vraiment avoir le bagage qu'il faut. Et il joue là-dessus aussi bien que in kayfabe que hors kayfabe, et ça c'est quelque chose d'assez beau.
Ah bah ce mec, pour rebondir sur ce que tu dis, n'avait pas du tout le bagage qu'il faut, étant donné qu'il était tiré de la télé-réalité. C'est un mec qui n'était pas là à l'origine pour faire du catch. D'ailleurs, il l'a dit même à ses débuts, il était traité par les autres un petit peu comme un déchet, quoi. Il considérait qu'il n'avait rien à faire là. Et moi, pour moi, le Miz, il évolue énormément. Il fait monter sa gimmick. Pour moi, le maître des gimmicks, moi, c'est Edge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il joue ses gimmicks à la perfection. Et le Miz, il est en train de prendre le même chemin que lui. Il grandit petit à petit, mais il grandit, le mec. Et
c'est, absolument.
C'est bénéfique pour lui.
Et pour la fédération.
Mais maintenant, moi, en vainqueur de Rumble, j'aurais vu Morrison. Moi, j'estime que Morrison, il évolue, il fait des trucs complètement extraordinaires, ne serait-ce qu'au Rumble ou à l'Elimination Chamber, me semble-t-il. Ah, ouais. Il est accroché au toit et il est tombé. Mec, mais il mérite d'être propulsé.
Quand on marque avec John Morrison, il est pushé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'un coup il le push, un coup il le push pas, et c'est vraiment une sorte de. Ils le mettent en avant, mais ensuite ils le remettent un peu en arrière, ils le remettent en avant.
Ouais, mais alors, si tu veux, on peut rebondir là-dessus parce que. Bon, Morrison, il fait quand même des manœuvres suicidaires, on va dire. Maintenant, est-ce que les officiels ont pas peur de le promouvoir champion et qu'ils ont pas peur des blessures après derrière?
Je pense que ça vient de ça.
Si le mec devient champion, mais qu'il se blesse par derrière et qu'il faut redonner la ceinture à quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt.
C'est ce que j'ai dit dans le podcast après le Chambers, j'en avais parlé.
Mais moi j'ai peur que Morrison se lasse à la fin, tu vois. Parce que bon bah il est pas propulsé comme il devrait être propulsé, c'est dommage pour lui quoi.
Moi mine de rien, quand je vois ce qu'il est en train de faire John Morrison, ça me rappelle un peu l'époque Jeff Hardy. Parce que pendant pas mal de temps il était en haut de la scène, puis ils l'ont redescendu parce qu'il a joué quand même pas mal de fois pour les gros titres, après il est redescendu, il jouait juste les petits matchs comme ça, ils l'ont remonté et il a quand même fait plus de 10 ans dans la fédération avant qu'il lui propose les matchs de championnat pour le titre de champion de la WWE, donc je trouve que leurs carrières sont assez similaires par rapport à la WWE.
Certes, mais moi je pense que Morrison devrait plus revenir sur les équipes. Quand il était en équipe avec le Miz, quand il était dans les M&M, c'était quand même plus florissant, même si bon là en solo il fait des super trucs, mais il est toujours effacé par les autres. Je le verrais mieux en champion par équipe, il s'épanouirait plus qu'en solo actuellement.
Ah, putain, non, je pense pas qu'on doit faire. On ne doit pas remettre Morrison dans la division par équipe. Je pense qu'il a déjà fait son temps. Il a été avec Johnny Nitro. Il a été avec The Miz.
Il était avec Johnny Nitro. Comment Morrison était Johnny Nitro.
Il était avec Mercury. Voilà, il était avec Mercury, oui.
Joey Mercury.
Ouais, il était dans les
M&M. Ouais, c'était Joey Mercury, ouais. Donc, ouais, enfin, je pense pas qu'il doit revenir vraiment dans cette division par équipe. Il a vraiment déjà fait tout ce qu'il avait à faire dedans. Il a également fait ce qu'il avait à faire au niveau de la mid-card. Il a déjà gagné quand même beaucoup de titres secondaires. Je pense que maintenant il faut vraiment qu'il passe son trou, qu'il passe progressivement main eventer. Et ça, je pense que ça va venir plus tard dans l'année. Ce qui n'a pas collé en fait, c'était la période. Il commence vraiment à gagner le soutien de la foule et l'attention des observateurs à une période en plein retour WrestleMania. Et je pense pas que la WWE a voulu miser sur lui pour un des matchs phares de l'événement. Donc il va falloir attendre un peu, c'est repoussé en quelque sorte, mais j'ai l'intime conviction qu'il va vraiment percer cette année.
Et moi j'espère pour lui, parce que c'est vraiment dommage. Bon, c'est vrai qu'il est un peu effacé par les gros main eventers, hein, John Cena, Randy Orton. Bon, maintenant les gens commencent à en avoir un peu ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes en main event. Moi j'ai beaucoup de gens qui me le disent, hein, qui me disent on en a un peu marre de voir toujours les mêmes. Et bah c'est vrai que bah, de voir Morrison en main event, ça ferait pas de mal.
C'est clair.
Allez, on enchaîne avec l'autre pay-per-view de Road to WrestleMania, c'est donc Elimination Chamber. Donc Elimination Chamber qui avait comme match d'ouverture Del Rio contre Kofi Kingston. Donc victoire de Del Rio par soumission. Donc avis général, je vais pas non plus faire un tour de table cette fois-ci, on va essayer de gagner du temps. Avis général du match, qu'est-ce que vous avez pensé?
Très bon match d'ouverture pour moi, Kofi Kingston est excellent. Donc,
ouais, pareil, match d'ouverture.
Juste ce qu'il faut pour un opener, une durée correcte, des bonnes prises, rien à dire.
Voilà. Steven, ton avis?
Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'était un bon match d'ouverture.
Jérémy, ton avis?
Comme j'ai dit, très très bon match d'ouverture, comme d'habitude. Ça bougeait bien, il y avait de l'action, victoire de Del Rio, j'apprécie. Nickel.
D'accord. Match suivant, c'est l'Elimination Chamber de SmackDown pour le titre Heavyweight, donc qui opposait Edge, le champion en titre, face à Drew McIntyre, Rey Mysterio, Wade Barrett, Kane. Et en remplacement de Dolph Ziggler suite à son renvoi par Teddy Long, c'est Big Show qui le remplace. On s'attendait à un retour de Christian dans le Rumble, dans l'Elimination Chamber. Et il est revenu à la fin de l'Elimination Chamber. Donc victoire de Edge, qui conserve son titre. À la fin, Del Rio s'en prend à Edge. Et donc, pour intervenir contre Del Rio, c'est Christian qui arrive et qui fait un kill switch contre Del Rio. Et bien sûr, Edge qui repart avec la ceinture et avec Christian. Match suivant... Non, d'abord, je vais quand même vous demander l'avis de cette Elimination Chamber, qui est quand même une des attractions du pay-per-view. Avis général, qu'est-ce que vous avez pensé du match en lui-même?
Un superbe match. Vraiment porté par Rey Mysterio et Edge, à mon sens, qui ont vraiment été époustouflants. Du début à la fin, ils étaient les deux premiers sur le ring, ils ont terminé tous les deux. À côté, on a Drew McIntyre qui a tout de même fait une bonne performance, qui s'est fait remarquer alors qu'il était assez sous le feu des critiques. Mais par contre, vraiment déçu de ce qui a été accordé à Wade Barrett, c'est-à-dire une apparition tout de même assez courte, qui n'a pas vraiment apporté grand-chose, alors qu'on pouvait espérer justement qu'il se recrédibilise un peu. C'est dommage, mais c'est le seul point négatif.
Une apparition assez courte, il a quand même duré plus de quasiment 20 minutes dans ce match, donc je trouve que c'est déjà pas
mal. Mais il a pas eu de temps fort, vraiment.
Ouais, mais en même temps, faut dire aussi qu'il a été propulsé à ce niveau-là grâce à l'équipe de corps, donc au pire, moi je trouve que c'est une place qu'il méritait pas forcément.
Moi perso, hein, je trouve que c'était un Chambers très bon. Kane aussi a bien bossé dans Chambers.
C'est l'élimination du Big Show aussi qui est assez marrante, avec qui se prend quand même trois prises de finition pour en finir à bout. Ça, je trouve quand même que ce type, c'est vraiment un monstre.
Eddie, ton opinion justement sur ce match?
Très bon match, hein. Les Chambers sont des matchs, exceptionnels. Hein. J'ai regretté par contre que ça soit pas un petit peu plus sanguin et animal que la plupart des Elimination Chambers qu'on ait vu avant. J'ai trouvé que c'était quand même très PG comme Elimination Chamber. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après.
C'est vrai que c'était.
Moi, c'est que mon avis, mais enfin, c'est quand même resté. C'était un light. C'était un Elimination Chamber light.
Même et encore, si c'est quand même quelque chose. De ce que j'ai vu, c'était quand même déjà beaucoup moins light que ce qu'on a pu voir les deux dernières années. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu beaucoup d'intensité dans les coups, des vitres brisées, des choses comme ça. C'est pas forcément encore quelque chose de très violent. Et quand on regarde par rapport à l'édition 2010, qui était vraiment complètement édulcorée, il y a déjà une amélioration dans ce domaine-là.
Ah oui, ça, y a de plus en plus d'améliorations là-dessus, mais peut-être pas encore assez à mon goût, parce que je suis difficile.
En fait, tu serais plus pour l'Elimination Chamber qu'il y a de la FCW, il y avait en 2004 ou en 2005, je crois, où que chaque type était dans une, qui était dans une des petites cellules, avait chacun une arme avec eux. Ça, c'était.
Ouais, mais si tu veux, c'est ça en fait. Tu entends par Elimination Chamber qu'il y ait du sang, qu'il s'écoute. Quand ils t'en font la pub, ils disent oui, 10 km de chaîne, les corps.
La souffrance, la sueur, ouais.
Tu t'attends quand même à avoir un match sanglant, avoir un match difficile. Là, j'ai quand même trouvé que c'était des Elimination Chamber un petit peu light par rapport à ce qu'on en avait vu. Par rapport à quand il y avait ou Goldberg ou Lesnar. Alors là, c'était vraiment des énormes.
C'est clair.
Mais bon, ça reste un bon match pour moi dans la.
Oui.
Alors, match suivant, c'était un tag team match qui opposait deux membres du corps, Ace Slater et Justin Gabriel, qui étaient accompagnés de leur collègue Ezekiel Jackson, face à Santino Marella et Vladimir Kozlov. Donc, comme tu as dit précédemment, Eddie, c'est un match rapide. Donc on sait que The Core conserve le titre.
Moi j'ai rien à dire sur ce match-là parce que ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, la Nexus et la Core, c'est trop long. Santino et Kozlov, ils n'ont rien à foutre là. Enfin, moi, je vois pas d'intérêt là-dedans. Moi, ça m'a pas transcendé. Enfin, en tout cas, ça a rien à faire dans un pay-per-view pour moi.
Bah, Flo, est-ce que tu as un avis sur ce match ou non, ça te passe au-dessus?
Donc c'est le traditionnel match bouche-trou du PPV qui est ajouté à la dernière minute. C'est sûr que sur le ring, il n'y a pas grand-chose à en tirer, qu'on aurait largement pu s'en passer. Maintenant,